VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, l'armée malienne est tombée dans une embuscade à Tintelout, à 30 km de Tombouctou, dans la nuit de mercredi à jeudi. Bilan, 4 soldats tués et 5 blessés, plus 2 véhicules emportés par les assaillants dont on ne connaît pas l'identité. En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité, réclament la publication de rapports psychiatriques sur un ex-chef de milice qui a témoigné mercredi contre Madame Gbagbo. L'intéressé avait accusé l'ex-première dame d'avoir financé son mouvement pour Gbagbo, John Lyndon.
Nous détenons les preuves que le témoin a déjà fait l'objet d'un examen psychiatrique, a répliqué hier Maître Ange Rodrigue Dadié, un des avocats de Madame Gbagbo. Il dit exiger cette expertise en raison de l'incohérence flagrante des propos de Moïse Harold Emetch, chef du GPP, le groupement des patriotes pour la paix actuellement en prison. Maître Dadié a demandé la publication du rapport avant la poursuite de l'audition du témoin afin de ne pas induire les membres du jury en erreur. De son côté, le président de la Cour, Kouadio Boati, a interrogé le témoin sur sa capacité mentale. « Je suis en possession de toutes mes facultés mentales », a lancé à la barre M. Metch. L'audition de l'ex-milicien suspendu hier devrait donc reprendre ce jeudi après la publication du rapport de l'examen psychiatrique de ce témoin à charge.
Au Libéria, la mission des Nations Unies sur place cède officiellement ce jeudi les compétences en matière de sécurité qu'elle exerçait aux forces libériennes. Ce transfert d'autorité vient boucler un processus entamé en 2015 dans ce pays aux frontières poreuses, peuplé de près de 4,5 millions d'habitants. Anne Albertson.
La MINUL, la mission de l'ONU au Libéria, dont les effectifs ont culminé à 15 000 hommes, a été chargée d'assurer la sécurité et la protection de la population à son déploiement en 2003, après 14 ans de guerre civile. Le conflit a fait 250 000 morts, poussé des milliers d'habitants à fuir, ruiné l'économie et déstructuré les forces de défense et de sécurité du pays, alors un mélange hétéroclite de loyalistes, ex-rebelles et miliciens. Après une remise à plat, de nouveaux policiers et militaires ont été formés, notamment par des sociétés privées financées par les États-Unis et par l'ONU. Mais la MINUL a continué de sécuriser les infrastructures publiques de base, notamment les ports et les aéroports, les transferts de fonds et les prisons. Ce passage de relais réjouit certains, surtout dans les milieux officiels. Certains habitants, cependant, se disent peu rassurés par ce transfert de compétences et racontent d'amères expériences de rackets, corruption ou abus de pouvoir par des porteurs d'uniformes, eux-mêmes mal payés et sous-équipés, avec la palme de la mauvaise réputation pour les policiers.
Afrique centrale maintenant, en RDC, le président Joseph Kabila confirme que les élections auront lieu et il a appelé à la convocation rapide du dialogue. Dans son traditionnel discours à la nation, à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Congo-Kinshasa, M. Kabila a souligné que plus rien ne pourra arrêter le train des futures élections. Il a par ailleurs lancé un appel au facilitateur Idem Kodjo pour l'ouverture rapide du dialogue politique dans le pays. On écoute un extrait de sa déclaration avec Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Rien ne pourra arrêter le train de futures élections. Voilà pourquoi je lance un appel solennel à notre peuple, comme je l'avais fait en 2005 et en 2011, de participer massivement aux opérations proprement dites d'enrôlement des électeurs qui débutent dans quelques semaines en vue de l'établissement des listes électorales. Je tiens à vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises en vue du financement du dit processus.
Le président Joseph Kabila de la RDC.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram au Cameroun. 11 personnes sont mortes lors d'un attentat suicide dans la nuit de mercredi à jeudi à Djakana, localité camerounaise de l'extrême nord, frontalière du Nigeria. 10 Camerounais, pour la plupart des membres d'un comité de vigilance chargé de traquer les combattants de Boko Haram, plus le kamikaze. On compte également 4 blessés. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouverneur de la région Midji Yarwa Bakari en précisant que les blessés avaient été évacués sur 2 hôpitaux. Ces dernières semaines, aucun attentat suicide n'avait été signalé dans ce secteur frontalier de la zone d'influence de Boko Haram au Nigeria voisin. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique, le Kenya, déjà meurtri par plusieurs attaques d'envergure des islamistes somaliens Shebab, note avec inquiétude la présence croissante du groupe État islamique en Afrique de l'Est, ce qui attise les craintes d'attentats par des Kenyans rentrés au pays après avoir été combattre dans le djihad. Plus de détails avec Idrissa Sedoudia.
Il y a maintenant une menace réelle de la part du groupe État islamique pour le Kenya et le danger va continuer de croître, estime Rachid Abdi, analyste de l'International Crisis Group basé à Nairobi. Les renseignements kenyans estiment à une centaine le nombre de Kenyans ayant rejoint les rangs du groupe État islamique en Libye et en Syrie, avec la perspective de voir certaines de ces recrues rentrer avec la formation nécessaire pour commettre des attentats meurtriers. Le Kenya a déjà eu son lot d'attentats meurtriers contre des cibles nationales ou internationales. Al-Qaïda avait attaqué l'ambassade américaine à Nairobi en 1998, tandis que les Shebab affiliés à Al-Qaïda s'en sont pris au centre commercial Westgate en 2013 et à l'université de Garissa en 2015. De nombreux experts ont tempéré la suggestion d'une attaque imminente du groupe État islamique au Kenya, mais estiment que la menace d'une radicalisation alimentée par les frustrations d'une jeunesse désœuvrée est réelle.
En Afrique du Sud, la télévision publique sud-africaine sous le feu des critiques. À 5 semaines des élections municipales à haut risque pour le gouvernement, la SABC est soupçonnée de rouler pour le pouvoir au point d'être accusée de censure. Le PDG de la radio et de la télévision publique sud-africaine a annoncé lundi sa démission du premier média du pays pour dénoncer le musellement de son organe par le gouvernement. Plusieurs journalistes sud-africains de différents médias ont appelé à manifester demain devant les locaux de la SABC pour dénoncer les attaques contre la liberté d'expression. Fin de la visite du président américain Barack Obama à Ottawa, au Canada, où il a eu jeudi un sommet avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président du Mexique Enrique Peña Nieto. L'accord de libre-échange, le Brexit et la lutte contre le changement climatique ont dominé les débats. À l'issue du sommet, ils ont tenu une conférence de presse conjointe. Que peut-on en retenir? Éric Manirakiza a joint à Ottawa Chika Kanyori, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
Ils ont commencé par dire qu'il faut renforcer, après le problème de l'Angleterre, qu'il faut renforcer le libre-échange pour dire que ce n'est pas le libre-échange ou l'ouverture des frontières qui cause des problèmes, mais c'est surtout la façon de l'expliquer aux gens. Et c'est ça qui a permis d'ailleurs directement au président du Mexique de citer nommément Trump. Tu crois qu'il peut y avoir un monde avec des murs? Et il a été très acclamé. Ils ont aussi parlé de l'environnement. C'est ce qu'ils disent qu'aussi, il faut que ça soit une économie ouverte, mais en respectant les lois de l'environnement et qu'il faut faire tout pour que dans les années à venir, on puisse aussi avoir l'énergie propre, au moins jusqu'à moitié quoi, de l'énergie qu'on peut utiliser dans tous ces pays.
On a vu les effets du Brexit. Est-ce que ça peut jouer positivement pour réveiller les consciences et éviter ce qu'on a vu?
Probablement que les gens vont être un tout petit peu plus prudents. Je pense que probablement, comme on l'a dit, Obama, c'est l'élection de Hillary Clinton devient véritablement sa cause à lui, puisque sans ça, tout son héritage disparaîtrait. Et je crois que les gens ont commencé à comprendre qu'il y a des affaires qu'on très souvent on croit qu'elles ne sont pas possibles et qu'elles arrivent quand même, comme ce qui est arrivé en Angleterre. Ça devient difficile à gérer, puisqu'on ne sait pas, même au niveau de l'Union européenne. Je crois que ça va donner beaucoup de choses à réfléchir.
Chika Kanyori, rédacteur en chef du magazine Transatlantique, joint à Ottawa, au Canada. Et pour terminer, l'Euro 2016 de football, le premier quart de finale, Pologne-Portugal aura lieu dans quelques heures à Marseille. Coup d'envoi à 19h, temps universel, Robert Lewandowski ou Cristiano Ronaldo. Ce soir, l'une des sept stars mondiales du foot va sortir de l'Euro 2016.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Oui, oui, oui.